Donc moi, je m'appelle Rebecca Manzoni et je suis journaliste. Bonjour. Vous êtes bien Viggo Mortensen.
Oui, c'est moi. Je peux essayer en français, mais il y a des choses où je peux m'exprimer mieux en anglais.
Ok. Ça peut être entre les deux.
Ok.
C'est l'histoire d'un homme qui n'imprimait pas la pellicule au départ, et puis son visage fut sur les écrans du monde entier avant qu'il ne tourne des films lui-même. La légende raconte que sur le tournage du Seigneur des Anneaux, Viggo Mortensen s'est cassé une dent qu'il a voulu recoller avec de la colle forte. Le cinéaste Peter Jackson réussit à le convaincre d'aller chez le dentiste, mais Mortensen est tellement habité par le rôle qu'il ira avec son épée et son costume. Cet homme est devenu star mondiale à l'âge de 43 ans avec ce rôle d'Aragorn, avant de commencer l'une des collaborations les plus passionnantes du cinéma contemporain entre un comédien et un réalisateur, parce que c'était Mortensen, parce que c'était Cronenberg. Puis il y eut les films La Route, Green Book et ses films à lui. Viggo Mortensen a vécu en Argentine, au Danemark, aux États-Unis, en Espagne. Son deuxième film comme cinéaste sort en salle mercredi prochain et il s'intitule Jusqu'au bout du monde. Bienvenue pour une échappée avec Viggo Mortensen.
Dotémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Vous êtes comédien, vous êtes cinéaste, vous êtes poète, photographe, musicien. Qu'est-ce qui vous a ouvert à toutes ces disciplines?
J'imagine, par exemple, quand très jeune, bébé, j'ai échappé deux fois de notre maison, before I could walk.
Avant de savoir marcher.
C'est ma mère qui m'a raconté ça, je ne me souviens pas. Mais elle se réveillait deux fois et j'étais disparu. Je m'échappais. On m'a trouvé la première fois, c'est notre chien qui m'a trouvé dans la forêt. Et la deuxième fois, c'est un voisin à 400 mètres que j'étais allé dans la maison, dans la cuisine. Et ils m'ont trouvé là. Et ils ont téléphoné ma mère. Are you missing something?
Il ne vous manque pas quelque chose?
On avait téléphoné à la police et tout ça. Et j'ai fait ça toute ma vie. Je crois que c'est pas parce que je voulais échapper mes parents ni la maison, c'est parce que je voulais apprendre des choses ou explorer ou voir qu'est-ce qu'il y a. What's outside the house?
Ce qu'il y avait à l'extérieur de la maison.
Et je continue à faire ça. C'est vouloir explorer, apprendre des choses, mais c'est aussi le désir d'enregistrer ce que j'apprends et de me souvenir de ce que j'ai appris. C'est une façon de ne pas être passive dans la vie.
Avec qui avez-vous le plus parlé de cinéma jusqu'ici?
Bon, j'ai commencé avec ma mère. C'était la première fois que je suis allé au cinéma, c'était avec ma mère, nous deux. Quand j'avais 4 ans, par exemple, je me souviens que nous sommes allés au cinéma voir Lawrence of Arabia, par exemple.
Lawrence d'Arabie.
Pendant l'entracte, elle m'a demandé « What do you think is going to happen ?» Qu'est-ce que tu penses va se passer dans la deuxième partie? Et j'ai dit « Bon, je pense que Lawrence, il sait monter à cheval ou au chameau beaucoup mieux que les autres Anglais. Il va gagner. » C'est très simple comme réponse, mais on a parlé de l'histoire. C'était comme si elle, dans une autre vie, elle aurait pu être scénariste ou réalisatrice, je sais pas. Jusqu'à la fin de sa vie, on a vu des films ensemble quand j'étais adulte. Chaque fois que je la visitais, on allait au cinéma. You wanna go to the movies? Yeah, let's go. Et on parlait toujours de l'histoire, de ce qui se passe à l'écran. Pas d'une façon académique, mais je trouve qu'elle était très intelligente. She had very good instincts.
Elle avait un très bon instinct pour les histoires.
Yeah. Et c'est dommage qu'elle n'a pas pu voir l'histoire de Vivienne. Elle aurait beaucoup aimé, je crois, ce film.
L'histoire de Vivienne est au cœur de Jusqu'au bout du monde, deuxième film que Viggo Mortensen a écrit et réalisé.
On a quelques images de l'enfance de ce personnage, une gamine intrépide, grandie dans une forêt et qui se passionne pour la vie de Jeanne d'Arc. Une fois jeune femme, Vivienne compte mener sa vie comme elle l'entend. Or, nous sommes en 1860, dans l'Ouest américain. Un jour, elle fait la rencontre d'un cow-boy immigré. Il s'appelle Olsen, il est danois, et le voilà. À l'écran, Vivienne est interprétée par Vicky Creeps, et Olsen, c'est Viggo Mortensen.
Olsen.
First Olsen.
First Olsen.
Vivienne.
Just Vivienne.
Vivienne Le Cousy.
Ah, enchantée. Vous êtes française?
No.
You're not American.
Yes, I am.
You don't sound like it.
And neither do you.
So where are you from? Vivienne Le Cousy.
It's a very long story.
I have plenty of time.
Vous avez choisi la forme du western, ce qui suppose un certain nombre de codes, mais pourquoi le western était la forme qui allait servir au mieux cette histoire ?
J'ai grandi comme beaucoup de garçons de ma génération, dans un moment où on pouvait voir de nombreux westerns à la télé et encore au cinéma. Mais je trouvais, entre autres choses, que c'était intéressant de placer une histoire d'une femme indépendante, libre, disons, forte, pas dans notre époque, mais dans l'Ouest, 19e siècle, quand la société était hors la loi et dominée par des hommes. Je trouvais le contraste intéressant.
Et ce personnage féminin, vous l'avez construit comment ?
De nombreuses femmes, surtout ma mère. Le film est dédié à ma mère parce que la première image qui m'est venue, c'était d'une fille qui court et rêve dans une forêt de nord-est des États-Unis, forêt d'érable, de chêne. Et j'ai trouvé un endroit pour le tournage qui était presque pareil, identique à où ma mère a grandi, près de la frontière canadienne. L'inspiration, c'était ma mère et des autres femmes que j'ai connues dans ma vie et dans la littérature et dans quelques films aussi.
Pour moi, un des traits de caractère importants de Vivienne, c'est un personnage qui est joyeux au départ.
Oui, il y a plein de couleurs que Vicky a apportées.
Vicky Creeps, qui incarne Vivienne.
Oui, au personnage, il y a plein de moments dans le film où elle s'exprime sans des mots, entre les mots, disons. Les émotions, ce qu'elle pense ou ressent, c'est comme si ses sentiments et ses pensées traversent sa peau et ses yeux, c'est rare. Le moment que j'ai décidé d'essayer d'être acteur dans le cinéma, c'était à cause de l'impression que m'ont donné de nombreuses femmes. Par exemple, des films comme Autumn Sonata, le dernier film de Ingrid Bergman pour Ingmar Bergman.
Sonate d'automne.
Sonate d'automne. Elle et Liv Ullmann.
Ouais.
Aussi des vieux films comme La Passion de Jeanne d'Arc de Falconetti, un film que j'ai vu 100 fois, peut-être.
Donc ça veut dire que c'est des actrices qui vous ont donné envie de devenir acteur.
Oui, surtout, oui, oui. Meryl Streep, des films avec Barbara Stanwyck, par exemple. Ce sont des personnages qui m'ont intéressé.
Beaucoup d'acteurs masculins aussi, mais le jeu de certaines femmes m'ont vraiment frappé.
D'ailleurs, pourquoi à la fin du premier film, vous remerciez Agnès Varda ?
Parce qu'elle m'a dit une chose, je l'ai connue une fois. C'était un vol d'avion de Marrakech à Paris. J'ai eu de la chance. J'ai connu Agnès et sa fille, Rosalie. Et Rosalie a vu que dans la salle avant de partir, j'ai parlé avec Agnès, on a parlé du cinéma, tant de choses. Et puis Rosalie a dit, si tu veux changer, tu peux t'asseoir
à côté d'elle,
à côté de ma mère pour le vol. Et c'était pas longtemps avant sa mort. Elle n'était pas bien, elle était épuisée, mais mais on a beaucoup parlé pendant ce voyage, et elle a dit une chose que je trouvais très importante pour moi en tant que réalisateur. C'est, elle m'a demandé, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as un rôle à jouer? Non, je suis en train de préparer mon premier film en tant que réalisateur. Ah, ok, et bonne chance, merde. Et tu dois penser à une chose, c'est très important. J'ai dit, c'est quoi? Il ne faut pas montrer des choses au public. J'ai dit, mais c'est un film, il faut montrer des choses au public. Non, 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 il ne faut pas montrer, il faut donner envie de voir des choses, mais pas les montrer. C'est ça qu'elle m'a dit. Et je pensais, c'est juste.
Laisser de la place au spectateur, en fait.
C'est ça.
Pour son imaginaire.
Pour que le spectateur a l'opportunité de participer. Je pensais qu'Agnès avait raison, parce que j'ai toujours pensé que quand on a fait un film, la première fois qu'on monte le film à une personne, le film devient son film. J'ai fait mon film, mais le moment que je monte le film, c'est pas mon film, c'est ton film. Et on partage, mais on donne une histoire. Et puis, j'aime les conversations avec le public, parce que c'est intéressant. Ils viennent quelquefois avec des idées, des perceptions du film que j'avais jamais... Je ne suis pas toujours d'accord avec les idées ou les propositions, mais ok, c'est ton film, si tu penses ça. Mais je peux discuter avec toi sur ça ou sur ça, mais il y a des choses que je ne sais pas, et il se peut que tu as raison.
Après Agnès Varda, dans la voix de Viggo Mortensen dans Totémique, Agnès Varda au micro d'Éclectique en 2012.
Il y avait des spectateurs qui m'ont dit, au fond, on a en nous une capacité de s'en aller, de dire zut à tout le monde, de tout refuser. C'est-à-dire, l'art, la peinture, les personnages de films expriment quelque chose qui est en nous, et qu'on n'ose pas faire, ou qu'on ne sait pas dire. Et moi, j'ai l'impression que des fois, je dis pour d'autres gens des choses que j'ai senties, mais qu'ils sentent aussi, mais ils n'ont pas les mots. Ils n'ont pas la forme. Puis le temps que je travaille, je peux commencer à avoir la forme un peu.
Laurent Barden est tigre d'eau douce avec Jeanne Haddad pour une chanson qui s'intitule « Meilleur ».
Je suis capable de tout, du pire comme du meilleur.
Viggo Mortensen et Rebecca Manzoni, Totemic sur Inter France. Non, je sais pas. C'était quoi?
France Inter. Ça veut dire quoi, Viggo, en danois?
Quelques-uns qui disent que c'est guerrier, qui était aux côtés du roi, et il s'appelait Viggo. Il était un homme de confiance.
Non, mais tu te drogues ou quoi? Lui a demandé sa mère. Bah oui, Viggo Mortensen lui avait affirmé être à l'affiche de La Rose Pourpre du Caire de Woody Allen, alors que c'était même pas vrai. Enfin si, son nom figurait bien au générique et il avait effectivement tourné des scènes, mais tout a été coupé au montage. Avec le réalisateur Jonathan Demme, idem, coupé au montage. Nous étions au milieu des années 80 et il faudra attendre Witness pour que Viggo Mortensen entre enfin dans nos rétines. Et surtout The Indian Runner de Sean Penn, où il incarne un vétéran du Vietnam flippant. Pendant ce tournage, il rencontre Dennis Hopper, qui l'encourage à montrer ses photos et publier ses poèmes. Viggo Mortensen se lancera dans tout ça, avant que la gloire n'arrive au début des années 2000 avec Le Seigneur des Anneaux et grand rôle, comme j'ai déjà dit, sous la direction de Cronenberg, etc., etc. Votre premier film, vous l'avez réalisé, il est sorti en 2020. Depuis combien de temps vous aviez envie d'être cinéaste?
Bon, la première fois que j'essayais, c'était 1984. J'avais un scénario et j'ai trouvé...
Ah
un...
oui, donc c'était 35 ans plus tôt, en fait.
Ouais. Mais j'ai pas pu trouver l'argent pour le faire. Et puis j'ai commencé à travailler plus qu'en tant qu'acteur. Mais il se peut que c'est bon d'avoir été forcé à attendre, parce que depuis 1995, j'ai travaillé avec Cronenberg 4 fois, avec Jane Campion, avec Matt Ross, Anna Peterberg, Lisandro Alonso, des nombreux réalisateurs qui sont intéressants. L'école du cinéma, pour moi, c'était le tournage. Et ça m'intéressait. Il y a des autres acteurs qui se concentrent sur son travail, simplement, et le texte et ce qu'ils veulent faire, sans penser aux autres, ou au travail collectif de faire un film. Moi, j'étais toujours intéressé d'être présente, d'observer. Au tournage, d'observer et d'apprendre comment faire, comment pas faire.
Alors, j'imagine effectivement de tourner 4 films avec David Cronenberg ou Jane Campion, Lisandro Alonso, etc. C'est des postes d'observation géniaux. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, par exemple?
I think shouting,
crier,
and not listening to people,
et ne pas écouter les gens.
It's not so much
ce n'est
fun
pas très amusant de travailler
way,
de cette façon,
one.
Premièrement.
And two, it's
et deuxièmement,
not practical.
Ce n'est pas adapté. Ce n'est
pas la manière efficace de raconter une histoire. Parce que si on n'écoute pas, si on ne reste pas ouvert aux idées des autres, des choses qui peuvent arriver de n'importe qui, de n'importe où, c'est impossible de faire ton meilleur film.
Et vous aimez diriger les acteurs?
Oui, oui. La meilleure chose pour les acteurs et pour les réalisateurs, c'est de rester flexible. Si ça marche, ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant qui me semble bon pour la scène, je dis rien. J'ai pas besoin, j'ai pas envie de tout signer. De dire, c'est moi qui ai créé ça. Il y a des choses qui sont comme des cadeaux qui me donnent les acteurs ou les membres de l'équipe technique aussi. C'est ça que j'ai appris des femmes, des hommes, des bons réalisateurs que j'ai connus dans ma carrière, c'est rester ouvert aux idées des autres. Une bonne idée peut arriver de n'importe où, n'importe qui.
If you listen, you can hear it call. Whalery. There is a river called the River of No Return.
Pour son deuxième film, Viggo Mortensen s'est lancé dans un western et le personnage principal est une femme. Il y a toujours des femmes dans les westerns. La plupart du temps, elles sont bonne épouse ou prostituée ou prisonnière des Indiens ou chanteuse de saloon, comme dans La rivière sans retour d'Otto Preminger avec Marilyn Monroe que vous entendez chanter là sous ma voix. Dans ce film, Marilyn partage l'affiche avec Robert Mitchum. Donc les femmes ont rarement le premier rôle dans les westerns. Il y a bien Johnny Guitar qui met en scène deux femmes rivales. Mais avec Jusqu'au bout du monde, Viggo Mortensen voulait faire quoi ?
L'idée, c'était de faire un film dans le genre du western classique, mais avec la différence importante que nous nous concentrons sur le personnage féminin principal et que quand son partenaire masculin part à la guerre, on reste avec elle. C'est différent. On ne voit pas ça normalement dans le western classique. Ben, y a plein de choses qu'on ne voit pas normalement dans les western classiques. Par exemple, la variété des langues ou des nationalités. On le voit de temps en temps, mais normalement, les personnages principaux sont toujours des anglos et on pense que, bon, dans l'Ouest, tous les gens parlaient comme s'ils venaient de la Californie ou de Texas, et pas d'autre chose. Il y a toujours des Mexicains et des Native Americans.
Des Amérindiens.
Et tout ça, mais. But they're never the main characters.
Mais ils ne sont jamais les personnages principaux.
Bad people or incidental.
Des méchants, accessoirement.
Et dans cette histoire, je voulais montrer un peu plus la vérité ou faire raconter une histoire historiquement fidèle ou correcte.
Ce qui raconte les États-Unis, en fait.
C'est ça. C'était la vérité en ce moment et maintenant. C'est seulement des nationalistes aveugles qui disent des choses comme la France pour les Français ou les États-Unis pour les Américains. Ça veut dire quoi ? Ça n'existe pas. Ça n'a pas existé. Jamais.
Vous, vous maîtrisez plusieurs langues. L'anglais, le français, l'espagnol, le danois, entre autres. Est-ce que vous jouez différemment selon la langue que vous parlez?
Oui, les gestes, tout ça. Je ne suis pas conscient de ça. Je le vois de temps en temps à l'écran, quand j'ai fait un film en espagnol, ou par exemple un film français, Loin des hommes.
Sur la guerre d'Algérie?
Oui, où j'étais obligé à jouer en français et en arabe. Les gestes sont un peu différents, le ton, le rythme.
Les gestes sont différents?
Oui, je trouve ça. Spécialement l'espagnol, par exemple, ou quand j'ai parlé un peu d'italien, par exemple, dans Green Book, ça m'a aidé à construire le personnage d'une façon différente que s'il parlait que de l'anglais avec mon accent naturel. Bon, la musique de la langue, ça donne des choses inattendues dans les gestes, dans les expressions de... Quelque chose change dans les yeux, les mains, tout.
Et pour terminer sur l'histoire des codes du western, les codes du western, c'est aussi des détails comme par exemple descendre à cheval. Par exemple, moi je ne fais pas de cheval, mais j'ai une idée, parce que j'ai vu plein de westerns, de comment on descend à cheval. Il y a plein de codes comme ça, très précis. Comment vous avez fait avec ça ?
J'ai grandi avec des chevaux, très jeune, ouais. Et puis, quand je vois un western, même si c'est un mauvais western, je sais immédiatement si l'acteur est à l'aise et sait monter à cheval. C'est plus important de voir comment...
C'est plus important de voir comment ils montent sur le cheval, comment ils descendent du cheval, ou encore comment ils se déplacent autour du cheval que comment ils chevauchent le cheval.
Et si on voit des westerns ou les cowboys, si je vois qu'il ne sait pas monter bien à cheval...
Ça vous sort du film?
Un peu, oui. Mais il y avait plein de scènes et des films que j'ai... partagé avec quelques acteurs et avec des membres de l'équipe pour dire Regarde ce film, c'est un mauvais film, très mauvais film, mais il y a deux acteurs qui savent monter à cheval très bien. C'est intéressant. Regarde ça si tu veux.
Des vieux du rock'n'roll encore vert. Voici les Stones et le titre, c'est Dreamy Skies.
Well, I got to take a break from it all. Cause the wind and the wilderness call. And I just need some peace from the storms. I got to take a break from it all. And I got to take a break for a while. Where there ain't another human for 100 miles. I hate being enclosed by the walls. And I got to take a break from it all. I'll be dancing on diamonds. I'll be skating on glass. I'll be chopping up wood, I'll be splitting the hat. An old AM radio is all that I've got. It just plays Hank Williams and some bad honky-tonk. Cause I got to take a break from it all. Break away from it all. From the city and the suburbs and sprawl. And the small town chatter and the know-it-alls. To a place where no one can call. And I won't hear the sirens or the maddening crowds. Just the bark of a fox. And the hoot of an owl. Ain't got no connections or a satellite phone. I'm avoiding the pictures and the people back home. And I just got to break free from it all. You see, it can't last forever. I'll be diving back in. It's good for my soul. Cause I love the laughter, the women, the wine. I just got to break free from it all.
Viggo Mortensen, comédien, cinéaste, et dans Totemic jusqu'à 10h. Au cas où vous auriez raté le début de cette conversation, Viggo Mortensen disait que son nouveau film était dédié à sa mère. Je note que le premier met en scène une relation entre un fils et son père. Ce premier film s'intitulait Falling.
Dans Falling, il y a quelques scènes qui sont exactement ou presque exactement comme la vie même, ce que je me souviens de mon enfance. Par exemple, aussi, il y a une scène de chasse de canards dans ce film. Et c'est passé pas aux États-Unis, mais en Argentine, quand j'avais 4 ans, avec mon père, c'était exactement ça. C'était l'hiver. Il m'a dit, tu veux essayer ? Et j'ai tiré, j'ai tué un canard, et puis j'ai plongé dans l'eau pour la rattraper. Et c'est la même chose. On devait aller très vite chez nous parce que c'était l'hiver. Et une autre scène, par exemple, quand la mère pleure, elle est en train d'écouter de la musique classique et le garçon écoute ça et il écoute la musique. C'est normal, parce que sa mère écoute ce genre de musique tout le temps. Mais il écoute qu'elle pleure aussi. Ça lui intéresse, il descend et il voit ça. Et j'ai vécu quelque chose pareil. pendant mon enfance. C'est comme si on voit une photographie et on pense à une histoire. On peut inventer un film d'une photo. Et c'était comme des moments dont je me souviens de mon enfance qui m'ont inspiré à écrire toute une histoire. C'est un point of departure. C'est comme...
Un point de départ.
Voilà, c'est ça.
Et comme pour Falling, c'est vous qui avez composé la musique du film.
Mmh. Elle est plus complexe dans ce film que Falling, mais oui. Et j'ai composé et enregistré la plupart avant tournée, comme avec Falling. Mais cette fois, c'était volontiers, parce que la première fois, c'était à cause de... J'ai attendu 4-5 ans pour trouver l'argent pour tourner. Et pendant ce temps, j'ai commencé à composer de la musique pour faire quelque chose.
Pour vous occuper.
Oui, oui. Mais quand j'ai vu que ça m'a aidé pendant le tournage, quant à la durée ou le rythme de quelques scènes, je savais que c'était pour moi une bonne idée, même si ça peut sembler contre-intuitif, de faire la musique avant. Pour moi, ça a été un bon guide pour le tournage et pour le montage. J'ai partagé ça avec le directeur de la photographie, avec des autres membres de l'équipe, et quelques acteurs aussi, et la productrice, pour dire c'est le temps, c'est le rythme du film, c'est ça qu'on va faire. Et il y avait des moments où, par exemple, quand je rentre chez moi après la guerre, et je descends par une montagne, et puis j'arrive à la maison. J'avais la musique pour ça.
Cette musique, composée par Viggo Mortensen, la voici. Olsen, le personnage qu'il interprète, a passé plusieurs années à combattre en soldat valeureux contre les confédérés pendant la guerre de sécession. Et là, Olsen est de retour, dans la maison où Vivienne, la femme qu'il aime, et lui, s'étaient installés avant son départ.
Et je savais la durée de cette transition, et puis je savais qu'on devait commencer ici et pas ici, et pas ici avec le cheval. Pour avoir le timing, pas seulement la durée, mais le ton, le rythme de la scène.
On diffuse la musique au chef opérateur et on lui dit, voilà, tu vois là, t'écoutes, il y a telle lumière, tel décor, enfin, ça fabrique des images en fait.
Je pense que oui, t'as raison, c'est pour ça que je l'ai fait. Ça m'a aidé, en tout cas. Et à la fin, je savais que la dernière scène, avec la dernière image, ça allait être une longue scène, 7 minutes 40, à peu près. Et j'ai composé la musique pour ça, bien avant de tourner. Et l'idée, c'était de pouvoir réfléchir à la fin, voir une belle image, le coucher du soleil.
Sur la mer.
Sur la mer, et de visiter les thèmes musicaux du film. Si on a aimé le film jusqu'à ce point, il se peut qu'on reste au cinéma pour ressentir, pour penser, pour réfléchir sur ce qu'on a vu, ce qu'on a senti.
Rester assis, même si c'est fini.
Ouais, et on visite des moments dans le film, des personnages. On pense à Vivienne, on pense à Olsen, ou on pense à la relation. Et on pense à l'avenir. J'aime les films... Quand le film est terminé, l'histoire est terminée, elle n'est vraiment pas terminée parce qu'on pense « Et maintenant quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ?»
La toute dernière séquence de cette émission, c'est une photo.
Okay.
Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui.
Ok.
Alors, c'est bon ?
Ça va apparaître.
T'as oublié quelque chose ?
Pardon ?
T'as oublié quelque chose ? Question.
Je me demandais si, pendant les journées de promo comme ça, quel est le plus gros mensonge que vous ayez raconté ?
J'essaye de ne pas le faire parce que c'est plus facile. Parce que si on commence avec une mensonge, on doit se...
Faut être cohérent.
Cohérent et se souvenir après, pour la prochaine entrevue. Mais moi, je sais pas le faire. Si on est content avec le film, on n'a pas envie ni besoin de... dire, je pense.
La photo est développée. Ça vous va?
Ouais.
Vous vous reconnaissez?
Ouais. C'est moi. Attentif.
Merci beaucoup, Viggo Mortensen.
Merci beaucoup.
Jusqu'au bout du monde, Dead Don't Hurt, pour le titre anglais, est le deuxième long-métrage de et avec Viggo Mortensen, sans oublier Vicky Krieps, qui tient le rôle principal. Le film est en salle mercredi prochain, 1er mai. Koyen Guyen réalise Totémique et c'était avec Benjamin Wagon ce matin. Perrine Malinge programme les invités, Ilinka Negulesco prépare l'émission et Jean-Baptiste Audibert choisit nos disques. La semaine prochaine, c'est Talon, Résille, Goût du jeu et chanson avec Caroline Loeb. Suivra un rendez-vous avec la comédienne Goldshifteh Farhani.